France Culture.
On essaie, en fait, notre particularité, c'est de faire de l'accompagnement entre un cheval et son humain. C'est une écurie où on accueille des chevaux, mais on n'est pas centre équestre parce que on n'a pas de cavalerie d'école, à proprement dit, comme un centre équestre.
Hans le Malin, le cheval qui savait lire et compter. Un documentaire de Carla Michel et Anne Fleury.
Nous avions besoin de trouver un nom pour notre petite entreprise et nous avons choisi Equi Clever H. Voilà. Et nous insistons évidemment tout le temps sur le H.
Premier épisode, savant ou télépathe.
Extrait d'un reportage du journaliste allemand Albert Sudekum, publié dans le journal français L'Humanité, le 19 septembre 1904. Je vais vous entretenir aujourd'hui d'un des phénomènes les plus extraordinaires qui ait jamais été observé dans la psychologie des animaux. Depuis des semaines, on voyait dans tous les journaux berlinois des articles sur un cheval, appelé Hans, qui saurait lire et compter, distinguer des sons et des couleurs. Je vais vous décrire simplement ce que j'ai vu moi-même. « Hans, quel jour de la semaine sommes-nous aujourd'hui ?» demanda Monsieur Von Osten. Le cheval frappe le sol de 6 coups avec son pied droit. La réponse est juste. « Et quelle date ?» 26 coups. « Quel mois ?» 8 coups. Le cheval connaît à fond le calendrier. « Vous riez, vous ne croyez pas ce que je vous raconte. » Parfois, cependant, il se trompe comme un enfant qui compte hâtivement. Mais beaucoup d'enfants et même les grandes personnes ne résoudraient pas sans difficulté ni sans faute les problèmes que nous posions au cheval. Combien fait 2 fois 15 plus 1 ? 31, répond immédiatement Hans. Monsieur Von Osten lui demanda : connais-tu la différence entre les nombres directs et les nombres indirects ? Hans remua la tête affirmativement. Eh bien, quel est le 15e nombre indirect ? Après une minute d'hésitation, Hans répondit « 29 ». Il connaît même les fractions et les manie rapidement et avec sûreté. D'après mes propres observations très minutieuses, j'ai la ferme conviction que M. Von Osten a réussi le premier à réveiller dans un cheval une activité intellectuelle propre s'approchant de celle de l'homme.
L'histoire de Clever Hans, je pense qu'elle a un effet direct sur l'équitation éthologique, avec le désir aussi de découvrir le cheval autrement que dans les centres équestres.
Émilie Defranoux et Christophe Bruyère.
C'est vrai que quand vous vouliez apprendre à monter à cheval, et c'est encore un peu le cas, assez directement, vous proposez de retrouver sur son dos, de faire des choses monter, voire partir en compétition assez rapidement. Et à aucun moment, vous apprenez à l'approcher, déjà au sol, à savoir qui il était, savoir comment est-ce qu'il apprenait, quelles étaient ses réactions, quels sont ses besoins. Voilà. Donc l'équitation éthologique a mis en lumière déjà l'hypersensibilité du cheval et puis propose une approche plus adaptée à l'animal.
Je vais vous montrer cette photo. Ouais,
on la connaît
vous
bien.
Vous le reconnaissez ouais. Donc c'est Hans le Malin avec Wilhelm Von Osten, son maître propriétaire.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez, Émilie, par exemple, me décrire son attitude ?
Je vois un cheval qui est attentif, je vois des oreilles vraiment clairement en avant, je vois un cheval qui est posé clairement sur ses 4 pieds, pas prêt à fuir, avec une encolure, j'allais dire, décontractée. Il n'y a pas de signe de tension musculaire, donc pour moi, il va bien et surtout, il est attentif à son humain à côté de lui.
Mais la première chose qu'on voit, c'est qu'on est dans une cour.
Vinciane Després, philosophe des sciences.
Donc, c'est-à-dire, on n'est pas du tout dans un milieu où on pourrait s'attendre à être, s'il s'agit d'un cheval, c'est-à-dire une prairie ou éventuellement un centre équestre. On est dans une cour et il s'agit visiblement, hein, je vais le deviner puisque je connais un petit peu l'histoire, qu'il s'agit de la cour de l'immeuble dans lequel vivait Monsieur Von Osten. Alors, on voit un homme d'un certain âge, hein, c'est habillé comme à l'époque, hein, on est en 1904 à cette époque-là. Et puis on voit un cheval, en fait, d'une très très grande beauté. C'est un cheval qui est élancé, qui a un poil luisant, qui a l'air d'être en vraiment très très bonne santé.
Ce qu'on peut constater, vous voyez, il a des poils extrêmement brillants. Il semble avoir des tissus très fins. on peut quand même présupposer qu'on s'occupe bien de lui. Et puis il y a autre chose, et on le voit peut-être un tout petit peu moins sur cette photo-là, parce que je crois qu'au niveau de la race, on dit que c'était un trotteur d'Orlov avec du pur sang arabe, etc. Bref, ce qui ne serait pas surprenant, parce qu'il a un port de tête d'encolure assez haut. Et par expérience, les chevaux qui sont bâtis, construits de cette manière, sont très souvent des chevaux qui sont sujets à aller vers une certaine posture de vigilance. Et souvent, ce sont des chevaux qui ont une hypersensibilité.
Et puis, en effet, à côté, on voit des tables avec des chiffres. Un boulier compteur comme ceux qu'on utilisait quand on... Enfin, peut-être pas votre génération, mais... Vous avez connu ça? Oui, très bien. D'un boulier compteur, et puis il y a des objets sur une petite table haute. C'est probablement une cour d'immeuble collectif. Et M. Van Osten, donc, faisait tous les jours, parce que ça, on le sait maintenant, faisait tous les jours répéter, faire des exercices à Hans, en fait, dans l'arrière, dans la cour, mais qui visiblement devait donner sur une rue, puisque les passants pouvaient assister à ces épreuves.
Donc, peut-être préciser qu'on était à Berlin, donc il a été connu en Allemagne, mais ça a dépassé aussi les frontières allemandes, cette histoire.
C'est-à-dire que les gens ont commencé, bon, il y a des gens qui passaient visiblement et qui devaient voir, et puis sans doute que M. Van Osten aussi devait en parler avec des amis. Puis il y a un certain M. Schillings, qui est un voyageur, un explorateur, et qui était en même temps de formation zoologue, qui est venu à un moment donné aider M. Van Osten parce qu'il avait été intrigué. Donc ça, je veux dire, la rumeur a fait énormément de choses, et puis s'est amplifiée et a fini par interpeller en haut gradé qui écrivait dans les journaux. Il a publié un article et cet article a fait grand bruit et a commencé à vraiment, à ce moment-là, donner à Hans une réputation, à ce moment-là, même internationale. Comme quoi, les choses ont été très vite.
Le terme que je retiens de vos deux descriptions, c'est celui d'attention. Hans semble attentif. Mm-hmm. C'est vrai que pour rendre les choses un peu concrètes, là, on est dans un box et donc on a Kiki qui est derrière nous, une jument assez grande. Elle est en train de manger du foin.
Ouais.
Elle est complètement inattentive, me semble-t-il, à ce qu'on fait. Ah !
Attention, elle a les oreilles vers nous. Elle est clairement quand même là. C'est-à-dire qu'elle a un œil vers nous, elle a une oreille tournée vers nous, pendant que l'autre mange, en effet. Elle mange, mais elle reste attentive. Je pense qu'il faut savoir aussi rester factuel par rapport aux signes qu'on observe. On va, par exemple, se concentrer beaucoup sur la position de la tête, sur les yeux, sur le relâchement musculaire, sur la queue, enfin tout un tas de détails qui n'en sont pas. Mais qui sont des faits. Le cheval, il est positionné de telle ou telle manière. C'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose qu'on voit physiquement, c'est un fait.
Alors, Willem Van Osten est d'abord un notable, c'est quelqu'un de très important dans la société. Je veux dire, il appartient aux classes supérieures qui ont pouvoir et autorité dans le type de société dans lequel on est en Allemagne à cette époque. Et ensuite, surtout, et c'est très très important, il a été professeur de mathématiques au gymnase de Berlin, ce qui correspond un peu à ce qu'on appelle chez nous en Belgique les humanités, et chez vous en France le collège et le lycée. Et en fait, ce qu'il a fait, et c'est ça qui a eu beaucoup d'importance, c'est qu'il a décidé d'utiliser les méthodes avec lesquelles il enseignait les mathématiques à ses élèves pour éduquer Hans. Et c'est pour ça, en effet, qu'il peut dire ce n'est pas du dressage, c'est de l'éducation. Ce n'est pas une mémoire mécanique. Hans est vraiment capable de calculer parce qu'il est passé par toutes les étapes d'un type d'apprentissage qui est un apprentissage par la compréhension. Alors, selon Willem Van Osten, selon ceux qui y assistent, quels qu'ils soient, tout ce qu'on peut dire à minima, c'est qu'il peut répondre à des questions aussi compliquées que des questions d'arithmétique. Par exemple, résoudre des racines carrées, faire des additions, des soustractions. Il peut également, toujours avec ses sabots, épeler des mots. Et puis, il savait aussi reconnaître la couleur, par exemple, de chiffons de tissu accrochés à des fils. Et on dit « Hans va chercher le tissu orange ». Il pouvait dire combien il y avait de chapeaux sur la tête des hommes qui étaient rassemblés autour de lui pour assister au spectacle. Il pouvait reconnaître des gens sur des photos. Ça, c'était plutôt par le langage du corps, il allait chercher. Et puis, il pouvait aussi répondre oui ou non. Si la question n'avait pas de sens, il pouvait dire non de la tête et puis on pouvait lui demander ce que tu peux répondre. Et Hans répondait relativement correctement à toutes ces questions-là.
Et donc, il y a tout un intérêt autour de cette histoire du cheval de Monsieur Von Osten, dont on cherche à comprendre la manière dont il fonctionne.
Axel Clearmans, professeur de psychologie cognitive.
Et surtout, on s'interroge sur la possibilité d'une fraude, parce que Hans n'est pas le seul, hein, il y a aussi la jument de Berlin, un cochon à Utrecht qui est lui aussi capable de calculer. Mais dans toutes ces situations, on peut démontrer finalement que le propriétaire de l'animal utilise un système de communication que l'animal a appris. Et donc on cherche à comprendre comment Monsieur Von Osten indiquerait à Hans de commencer à frapper et de terminer à frapper, mais personne ne trouve quoi que ce soit dans les mouvements que réalise Monsieur Von Osten, quoi que ce soit de suspicieux. Et on est dans une période, à ce moment-là, qui, en fait, voit naître ce qu'on appellera plus tard la psychologie expérimentale. C'est vraiment le moment dans l'histoire des sciences, si vous voulez, où la psychologie se détache de la philosophie et adopte une démarche scientifique pour tenter de comprendre la cognition humaine. Et s'en distingue donc justement par l'adoption de la méthode expérimentale qui va consister à réaliser des expériences en laboratoire à l'aide de toute une série d'instruments qui vont permettre de quantifier le comportement. On mesure les temps de réaction, l'amplitude des mouvements, de manière à chercher à décortiquer la manière dont l'homme traite l'information.
Alors c'est un contexte extrêmement intéressant. On est en 1904, alors on est en Allemagne. La psychologie scientifique, je veux dire par là la psychologie expérimentale, vient d'apparaître avec le laboratoire de Wundt à la fin du 19e à Leipzig en Allemagne. Il vient de se créer à Berlin un institut de psychologie où on pratique la même psychologie, je veux dire, qui se veut débarrasser de tout ce qui intéresse la psychologie populaire comme la télépathie, voire l'hypnose, quoi qu'on travaille l'hypnose assez sérieusement dans ces laboratoires, mais en tout cas la télépathie fait partie de ces choses que la psychologie va essayer d'écarter. La psychologie aussi essaie d'écarter tout ce que la philosophie avait légué à la psychologie, c'est-à-dire des nébuleuses comme l'âme, éventuellement même l'esprit. Et donc on a affaire à une psychologie expérimentale qui essaie vraiment de radicaliser son scientisme. L'expérimentation devient la voie royale pour avoir un savoir fiable, rigoureux, objectif, etc., etc. Il y a aussi le fait qui est très important, c'est, vous savez, Darwin, il n'y a pas très longtemps qu'il a écrit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une filiation, où nous appartenons tous à une même grande famille, que nous venons d'ancêtres communs, il devient beaucoup plus imaginable qu'un cheval pourrait éventuellement compter. Donc certains zoologues vont plutôt appuyer cette idée. Il y a aussi les professeurs de mathématiques, assez étonnamment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se disent, regardez, nos méthodes pour apprendre les mathématiques aux enfants sont tellement bonnes que même un cheval peut apprendre à compter, à faire des équations, etc. Bon, alors là, donc ça fait aussi une alliance. Et donc, c'est des gens aussi qui vont participer au débat. Et puis, la psychologie, elle, évidemment, va se retrouver mal prise dans cette histoire. Et pourquoi est-ce qu'elle est assez mal prise ? Parce que soit le cheval sait vraiment compter, ça veut dire qu'il est extraordinaire. Et elle se dit, si les chevaux savaient compter, on le saurait déjà. Et c'est un peu trop exceptionnel. Et la psychologie n'a jamais aimé les exceptions. Et si le cheval n'est pas doué mathématiquement, quelle est l'autre hypothèse pour comprendre cette histoire ? Et l'autre hypothèse qui, évidemment, a l'air de s'imposer, c'est qu'il est télépathe. Il lit dans la tête des gens. Et ça, la psychologie ne veut pas de ce type d'explication, parce que c'est trop miraculeux, c'est trop bizarre. Et donc Hans va se retrouver avec plusieurs possibilités d'interprétation. Et c'est cette controverse et ces polémiques qui vont agiter l'histoire autour de Hans.
Il n'y a jamais un risque, c'est ça que je me demandais aussi, comme ils ont fait à l'époque, de tomber dans des considérations où le cheval serait télépathe,
oui, ça,
de l'ordre de l'extraordinaire.
C'est intéressant. Bah, évidemment, hein, c'est un peu la porte ouverte à d'éventuelles fantasmagories, parce que je crois qu'à ce jour, il n'y a aucun fondement scientifique qui nous permette de penser que la télépathie existe véritablement, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas non plus. Et moi, j'aime bien citer une phrase de Baptiste Morisot, qui nous dit à ce sujet, « S'il ne faut pas ignorer l'invisible, il ne faut pas le fantasmer, mais il faut l'enquêter et le rendre plus intelligible. »
Une partie des gens sont totalement convaincus. Ils ont vu Hans faire tout ce qu'on a dit qu'il faisait. Il y en a une partie quand même qui dit « Ben non, mais ça n'existe pas, ça c'est de la triche. » Et von Osten, je vous l'ai dit, il appartient à une frange de la société berlinoise où la question de l'honneur est extrêmement importante. Il ne peut pas laisser passer le fait qu'on le traite de tricheur et de fraudeur. Et donc, c'est lui qui va aller interpeller la commission du bureau de l'éducation de Berlin en disant « On me traite de tricheur, je veux que vous m'aidiez et que vous montriez qu'il n'y a pas fraude. » Et donc, cette commission va être créée et elle va être constituée vraiment. Alors, c'est très étonnant quand on décrit cette commission parce que l'hétérogénéité des professions est on ne peut plus surprenante. Alors, évidemment, le premier qui sera nommé dans cette commission, c'est Karl Stumpf. Alors, Karl Stumpf, il est encore connu aujourd'hui parce que c'est un psychologue qui a fait des choses assez intéressantes, même très intéressantes, notamment en psychologie de la musique. Donc, Karl Stumpf, qui est directeur de l'Institut de psychologie de Berlin. Et puis, alors, je ne vais pas citer tout le monde, mais il y a des militaires. Hein, il y a le comte zu Kastel, qui est un grand cavalier, mais qui est un militaire, et un noble aussi. Il y a un spécialiste de l'éducation, je crois que c'est un instituteur, voilà. Il y a un directeur de zoo, Einroth, si mes souvenirs sont bons. Et puis, il y a Paul Busch, qui est directeur du cirque.
Oui.
Un directeur de cirque, en fait, pourquoi ? Mais parce que dans les cirques, on pouvait assister à des performances extrêmement semblables à celles que Hans exhibait. Paul Busch va d'ailleurs emmener Stumpf au cirque et va lui montrer quels sont les trucs qu'il faut apprendre à repérer. Et ça, c'est assez joli comme idée de dire, bon, ben, on ne dit pas que ce sont des trucs pour Hans, mais s'il y en a, il faut apprendre à les voir. Il y a quelque chose de l'ordre de la prestidigitation dans cette histoire. Qu'est-ce que fait un prestidigitateur ? Comment est-ce qu'il fait que des objets vont disparaître ou bien vont apparaître alors que vous ne les avez pas vus venir ou vous ne les avez pas vus partir ? Ben, il travaille sur les angles morts de la perception. Et je crois que c'est ça que Paul Busch a fait avec Stumpf, c'est lui dire, voilà comment il faut regarder, voilà les angles morts sur lesquels peuvent compter les dresseurs pour ne pas qu'on voit qu'ils envoient des petits signaux, parce que c'est ça la tricherie, ou la prétendue tricherie, qu'ils envoient des petits signaux sur la bonne manière de répondre. Et donc, la commission va se réunir donc en septembre pendant 2 jours. Et pendant 2 jours, on va poser à Hans quantité d'exercices.
Il y a tellement d'interrogations qu'on met en place une commission, la commission Clever-Hans, qui va chercher justement à étudier la manière dont le cheval raisonne. Et ils produisent un petit rapport assez court qui déçoit tout le monde parce que loin de révéler la présence d'une fraude, le rapport conclut qu'il n'y a pas d'explication et qu'il faut donc continuer le travail. Et alors Oscar Pfungst, l'étudiant de Karl Stumpf, quel est son rôle dans toute cette histoire ? C'est Stumpf qui lui demande donc de mener l'enquête en quelque sorte, et donc c'est lui qui, avec 2-3 autres, approche Monsieur Van Osten et commence à réaliser une série d'observations. Et par la suite, et c'est ça qui rend toute l'histoire tellement intéressante, une série d'expériences en laboratoire afin de prouver en fait que Hans utilise bien des signes communiqués de manière non intentionnelle par Monsieur Van Osten pour déterminer quand il s'agit de commencer à frapper du sabot et quand il s'agit de s'arrêter.
On entre ici dans l'étape qui n'est plus du tout une étape d'évaluation par une commission assez disparate, mais on entre vraiment dans un processus expérimental. Donc qu'est-ce que fait Pfungs ? Il décide d'isoler. Ça, c'est la première chose que la psychologie en laboratoire va faire, c'est on isole, on essaye, on purifie finalement, pas tellement le phénomène, mais on purifie la situation. Donc on dresse une tente dans la cour et on va procéder à des exercices. Alors vous parlez de sans connaissance qui est aussi appelé par Pfungs en aveugle. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire en aveugle, en fait il faudrait le prendre presque au sens littéral et puis venir à ce que ça signifie pour Pfungs et encore aujourd'hui. Il part du principe de l'hypothèse, de l'intuition, selon laquelle si le cheval peut savoir quand arrêter de taper son sabot ou orienter son parcours, son exploration pour aller chercher un tissu de couleur, c'est probablement parce qu'il détecte des signaux dans le corps du questionneur et que c'est ces signaux-là qu'il faut essayer de repérer. Et avant de les repérer, il faut d'abord savoir, mais est-ce que c'est bien ça la bonne hypothèse ? Et donc, Funk se dit, si le cheval, par exemple, ne voit pas son questionneur, est-ce qu'il est encore capable de répondre ? Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que si le questionneur se cache derrière un grand tableau, et que son visage, sa nuque et ses épaules sont masqués à la vue du cheval, le cheval s'égare et ne peut pas répondre à la question. Donc il se dit, Visiblement, il y a quelque chose dans le corps de l'expérimentateur qui est en jeu. Il va aussi aller plus loin, bon, sur ce qu'on appelle l'épreuve sans connaissance, c'est le questionneur ne connaît pas la réponse à la question qu'il pose. Et on voit que Hans s'égare aussi. Alors Fung va se dire, si l'épreuve sans connaissance ou en aveugle manifeste que Hans ne peut pas répondre, alors maintenant on sait où on doit investiguer, on doit observer les gens. Visiblement, le truc auquel Hans est attentif se situe probablement la tête, le cou et le dessus des épaules. Et là, il va se mettre Fung à observer très, très, très sérieusement.
En l'occurrence, Hans commence à taper du sabot dès le moment où Monsieur Van Osten baisse imperceptiblement la tête, comme pour observer en fait le pied du cheval, et il s'arrête quand Monsieur Van Osten se redresse de manière tout aussi imperceptible. C'est pour ça que personne n'avait pu observer en fait de manière tout à fait convaincante qu'il y a bel et bien un mouvement. Mais quand la bonne réponse est produite par le cheval, Monsieur Van Osten, mais aussi n'importe quel autre interrogateur, en fait, se redresse, où il y a une forme de relâchement de la tension. Il y a d'autres signes comme une petite dilatation des narines, un agrandissement des pupilles, autant de petits signes que Hans parvient à décoder et à utiliser. Et donc Hans donne l'impression de réaliser des opérations arithmétiques, alors qu'en réalité, il se contente d'observer de très fins mouvements produits par M. Van Osten, mouvements tellement fins que lui-même ne s'en rend pas compte. Et alors, Fungst, pour être absolument sûr de ses conclusions, il va réaliser une série d'expériences en laboratoire, dans lesquelles, de manière assez amusante, lui-même prend le rôle de Hans, c'est-à-dire qu'il joue le cheval, et donc il est en face d'une table avec quelqu'un qui lui pose une question dont il ne connaît pas la réponse, et exactement comme le fait le cheval, il observe l'interrogateur, il traque les petits signes justement qui indiquent qu'il a tapé, si vous voulez, alors là il utilise sa main, la bonne réponse, et ça fonctionne. Il parvient à fournir la bonne réponse dans de très nombreux cas, ce qui conforte son idée, donc que c'est bien ainsi que Hans procède. Et il va un peu plus loin puisqu'il quantifie tout cela, c'est-à-dire qu'il attache à la tête des personnes un dispositif qui permet d'enregistrer les mouvements de la tête, et il documente tout cela donc dans ce fameux ouvrage Clever Hans, dont Rosenthal écrira plus tard une préface. Quelque part, c'est vraiment fascinant parce que le cheval Hans, évidemment, utilise des indices. Alors, est-ce qu'il a conscience de ces indices et qu'il les utilise de manière intentionnelle, ou est-ce qu'il faut parler d'une forme de sensibilité inconsciente qui lui fait produire le bon nombre de coups? Ben, on ne sait pas trop parce qu'on s'interroge à propos de la conscience, justement, chez l'animal. Mais comme Fungst l'a bien mis en évidence, Van Osten lui-même n'a pas conscience, si vous voulez, de l'information qu'il exprime avec son comportement. Et donc c'est très intéressant parce qu'il y a une information qui circule mais dont personne n'a conscience.
Donc là, il s'appelle comment Divino. Ce cheval Divino.
C'est donc le l'étalon là, qu'on a à la maison.
Émilie, il y a une question que je me suis demandée, parce qu'il se mettait à galoper en cercle autour de vous.
Oui.
Et au fur et à mesure, j'avais l'impression qu'il se rapprochait jusqu'à parfois s'arrêter à vos côtés.
En fait, je me travaille quand il est plus loin. Et je récompense en mettant, par exemple, moins d'énergie quand il se rapproche. Et au fur et à mesure, lui, il a envie de revenir, il n'a pas envie d'aller travailler tout seul.
Ah oui, donc c'est une question d'énergie que vous mettez dans le corps?
Oui.
Ah oui.
Mon corps à moi. Si je mets plus d'énergie, il doit en mettre plus. Si j'en mets moins, il doit en mettre moins. Et après, le but, c'est qu'il peut partir, il peut aller plus loin, mais du coup, je le mets au travail pour qu'il ait envie de rester là.
Donc si vous baissez complètement...
Il s'arrête.
Les humains, on possède le langage articulé, eux ne le possèdent pas, on est dans une forme de communication non-verbale, et on sait que la communication non-verbale, elle rentre dans le champ d'une relation, y compris entre humains, elle a une place importantes. Donc voilà, c'est intéressant de porter une attention, de mettre en lumière ce que nous pouvons envoyer, pour la simple envie d'ailleurs, en tout cas c'est ce qui me concerne, de pouvoir tisser une relation de qualité avec un cheval.
Dans le reportage du même journaliste allemand Albert Sudekum, publié dans le journal L'Humanité le 19 septembre 1904, on peut lire au sujet de Hans « Il est très gai et pétulant, joyeux et souvent même exubérant, d'une gaieté folle, quelquefois il a ses nerfs. Lorsqu'il veut résoudre un problème difficile, on remarque ses efforts intellectuels. Lorsqu'il l'a résolu, il manifeste ouvertement sa joie. » Comment est-ce qu'on pouvait imaginer qu'on peut dire qu'il prenait du plaisir, Hans, à répondre aux questions ?
Ah, moi, je crois ce qui est lu là. Je veux dire, s'il y a bien quelque chose que les animaux expriment et qu'on peut retrouver, parce qu'il y a une telle proximité chez certains d'entre eux et nous, à cet égard-là, c'est l'expression de la tristesse, c'est l'expression de la joie. Je vais dire, un chien joyeux, un cheval joyeux, une vache joyeuse. Vous avez déjà vu les vaches, là, quand on les sort des étables le premier jour au printemps, qu'elles se mettent à danser, mais c'est extraordinaire. Je vois tout le corps, mais je vais dire, c'est ce que Étienne Sorio disait en parlant de l'enthousiasme des corps. Je trouve que c'est assez merveilleux que Von Osten ait réussi ça avec son cheval. Ça, c'est quelque chose aussi. Ce qui est triste dans l'histoire, c'est que Von Osten a eu deux réactions. Quand Fuchs lui a dit « Sauf votre respect, monsieur Von Osten, votre cheval, il ne s'est pas compté. Quoi. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est assez mécanique. » Et voilà. Bon. Et Von Osten va dire « Mais non, mon cheval n'est pas mécanique, c'est vous qui l'avez mécanisé. » Et puis, la deuxième réaction de Von Osten, il va à un moment donné dire à son cheval « Tu m'as menti. » C'est terrible de se dire que Von Osten est persuadé d'une certaine manière que le cheval mentait, c'est-à-dire lui faisait croire qu'il était compétent en mathématiques et que c'était tout à fait autre chose. L'histoire devient triste, pourquoi ? Parce que Von Osten ne voudra plus de son cheval. Il va le revendre. Et il va le revendre selon les sources, donc visiblement Maeterlinck parle de cette source-là et je l'ai trouvée aussi chez d'autres, à un bijoutier, un orfèvre, qui avait déjà deux chevaux, à qui il avait appris à lire et à compter. Il a commencé à faire des tournées qui avaient pas mal de succès. Il y avait quand même quelque chose de bizarre, c'est que Anne semblerait-il arriver à répondre aux questions dans le noir de la scène. Et que là, il est fort possible que, donc, que l'hypothèse de Fuchs non pas soit fausse, mais qu'elle était nettement insuffisante. Que Anne avait peut-être en effet bien d'autres moyens de détecter. Alors, je n'irai pas dire « Ah, ben, s'il peut le faire dans le noir, Mais oui, ils savent compter, les chevaux. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par compter ? Peut-être que c'est beaucoup plus vaste. Donc, peut-être que Hans ne comptait pas et peut-être qu'il ne comptait pas du tout. Mais dire que les animaux ne comptent pas, je n'irai pas jusque-là. Donc, ça, c'est déjà pour poser ça. Toujours est-il que Hans avait peut-être bien d'autres techniques à sa disposition, avait mis au point plein d'autres stratégies et que Fuchs n'a étudié que celle à laquelle lui avait accès.
C'était Hans le Malin, savant ou télépathe, avec Émilie Defranoux et Christophe Bruyère de l'écurie Equi Clever H, Vinciane Després et Axel Clermans. Merci à Fabien Cazot. Prise de son, Johanna Gabric et Paul Guig. Mixage, Alison Ascridi. Archivina, Mylène Touchet. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Carla Michel, réalisé par Anne Fleury.